Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Notre Dieu, souffle ton esprit en nos esprits, et qu'ainsi il y ait en nous, par la méditation des Écritures, un passage pour ta parole, de l'espace pour le Christ vivant, de l'amour pour nos frères et sœurs, de la lumière pour notre regard sur ce monde. Amen. Et nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournaient en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'annonce de l'ange résonne de siècle en siècle, et aujourd'hui encore, à nouveau, le salut est proclamé. Et pour comprendre un peu ce que représente ce salut, le contexte dans lequel l'évangéliste Luc inscrit l'annonce de l'ange et l'événement de la naissance du Sauveur, ce contexte est précieux, aujourd'hui encore, aujourd'hui à nouveau. Et trois éléments particuliers retiendront notre attention ce matin. Le recensement, la mangeoire et les bergers. Le recensement qui provoque le déplacement de Joseph et de Marie, sa fiancée enceinte, depuis Nazareth, leur ville de résidence, jusqu'à Bethléem, la ville de David, à la famille de laquelle Joseph appartient, ce recensement est ordonné par le pouvoir romain. Un recensement a pour objectif de compter la population. Dans l'Antiquité, il peut servir à dénombrer les hommes en âge de combattre, ou bien à calculer le montant de l'impôt susceptible d'être prélevé sur une population. Dans l'un et l'autre cas, le recensement représente l'exercice d'un pouvoir sur le peuple. Évaluer les ressources humaines, une expression « ressources humaines » qui dit bien qu'il s'agira d'y puiser, voire de l'exploiter, et évaluer les ressources fiscales pour alimenter et que le pouvoir en place et qu'il se prolonge. La Bible hébraïque raconte un recensement réalisé en Israël, voulu par le roi David, un recensement rapporté dans le deuxième livre de Samuel et dans le premier livre des Chroniques. Et s'il y a des différences entre les deux récits, les deux s'accordent pour qualifier ce recensement de faute devant l'Éternel. Et même si David s'en repent, eh bien une peste est envoyée qui fait périr un très grand nombre d'hommes. Ce qui fait que le recensement pour compter les forces se conclut par la perte d'une grande partie de ses forces. Car pour la Bible hébraïque, le peuple de l'Éternel ne se compte pas. Compter, c'est un geste de souverain. Et même si David est roi, ce peuple n'est pas à lui. Celui qui voudrait compter la population peut seulement lever les yeux vers les étoiles ou pencher la tête vers la poussière de la terre. Là se reflète le nombre des descendants d'Abraham, aussi nombreux que les étoiles du ciel, ainsi qu'il est écrit au chapitre 15 du livre de la Genèse, aussi nombreux que les grains de poussière de la terre, au chapitre 13 du même livre de la Genèse. Compter les humains, c'est vouloir en faire le tour, ce qui est une manière de les contrôler, de les dominer, alors qu'ils appartiennent à Dieu, ce qui détermine une liberté par rapport au Seigneur du monde et une limite pour les seigneurs du monde. Mais nous savons aussi que le nombre peut générer de la peur. Ils sont trop nombreux, ce que dira par exemple Pharaon en Égypte, lorsque les enfants d'Israël grandiront en nombre. Mais le nombre peut aussi entraîner du mépris. Ils sont si peu nombreux. Le texte de Luc interroge un recensement comme décision politique sur sa finalité. Contrôler ou faire place? Définir une identité, être de la famille de David ou de tel clan ou de telle nation, ou se laisser questionner? Clore l'espace, Bethléem, la Judée, la Galilée, ou élargir l'espace de sa tente? Car avec le recensement se joue un rapport de force. Et c'est en ce temps-là que naît Jésus, le Christ, le Sauveur, qui n'exerce aucune force de pression ou d'intimidation sur autrui et n'en exercera jamais, qui n'exploitera personne, le Sauveur qui n'usera de violence envers personne, ni envers Zachée, le collecteur d'impôts, ni envers la femme adultère, ni envers la pauvre veuve au temple, ni envers les Samaritains qui ne veulent pas l'accueillir. Chers amis, à Noël, le Sauveur qui est né nous sauve de l'exercice des rapports de domination sur autrui. Un nouveau-né dans une mangeoire interpelle ce qui, en nous et dans les diverses structures de nos sociétés, dans les institutions, y compris les institutions d'Église, ce qui, en nous, est tenté par le pouvoir ou engagé dans un usage du pouvoir sur autrui. L'enfant de Noël nous avertit, nous avise, nous rend un peu plus sages de la sagesse des pauvres en esprit et des humbles de cœur. Il nous rend un peu plus sages par sa fragilité même de nouveau-né, par sa vulnérabilité. Fragilité et vulnérabilité qui deviendront, en Jésus l'homme adulte, renoncement à la violence et dépendance entière à Dieu, en qui il dépose sa vie et de qui il la recevra toujours plus vivante. Mais à travers le recensement, c'est aussi la notion de compte qui est questionnée. Le compte d'un recensement n'est jamais exact. Les humains meurent et naissent, et d'autres naissent, qui sont différents et ne remplacent pas les défunts. L'enfant de Marie, qui naît à ce moment-là, fausse les comptes du recensement de Quirinus. Ils ne sont pas bons. Et nous savons aussi que le dénombrement des vivants a son revers, le sinistre des comptes des morts. Des kibboutz d'Israël aux villes de Gaza, de l'est de l'Ukraine à l'est du Congo, des réfugiés Rohingyas errant sur l'océan Indien en ce moment, aux migrants tentant de traverser la Méditerranée ou la Manche, ce sont toujours de terribles comptes, de mauvais comptes, les comptes d'un trop insupportable, chacune de ces morts est de trop. Parce que chaque vie compte. Chacune des vies humaines compte bien plus que le dénombrement de l'ensemble. Et l'enfant de Noël nous sauve des mauvais comptes. Il nous appelle, il nous exhorte à ne pas nous tromper de compte, à compter juste, c'est-à-dire à ce que chaque existence compte dans sa dignité, avec ses possibilités, avec son désir de vie et sa singularité, même la plus minuscule existence, même l'existence la plus abîmée. Et c'est avec ce compte-là que chacun compte, que nos existences sont élargies en humanité, approfondies en solidarité, et que le monde devient un peu plus vivable pour les enfants et pour les adultes. L'enfant de Bethléem nous sauve des comptes qui nous font perdre notre humanité. C'est qu'il est en trop. Lui qui naît dans la ville du pain, Bethléem, la ville du pain à fabriquer, la ville du pain à partager, la ville du pain qui nourrit. Il est en trop et sa mère doit le coucher dans une mangeoire, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle. Une mangeoire, ce n'est pas la place d'un enfant nouveau-né. Et pourtant, en voici une qui accueille le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Puisque ce Sauveur, Christ et Seigneur, n'a pas de place dans le lieu commun à tous. À peine né, le voici à part, à côté, à l'écart, relégué à une place qui n'est pas normalement celle d'un enfant. Et pourtant, cette mangeoire, cette crèche, crèche, c'est un autre mot pour mangeoire, cette crèche est devenue berceau, à tel point que crèche désigne aujourd'hui un lieu réservé aux petits-enfants. Ce qui n'était pas un lieu d'enfants est devenu le lieu des enfants. Quel retournement ! Peut-être quelle créativité ! Cependant, ce retournement, pas plus que les représentations si nombreuses de la crèche et de la nativité, ne saurait faire oublier cette naissance à l'écart, ce berceau pas normal, hors norme. Ce n'est pas seulement anecdotique ou pittoresque, cette mangeoire, cette crèche où Marie dépose son enfant. C'est déjà une manière de dire combien le Sauveur qui naît échappe aux normes, aux représentations habituelles, à l'idée qu'on peut se faire d'un sauveur qui serait l'idée d'un héros, d'un puissant capable de prendre en main le monde. Eh bien, pas du tout. Le sauveur naît dans un écart qui ne cessera d'être manifesté, également par ses paroles et par ses actes. Écart avec les discours religieux, écart avec les normes sociales, y compris familial. L'enfant de Noël nous sauve de la conformité qui n'interroge plus, qui ne critique plus, qui se contente de reproduire sans conscience du sens de ce qui est fait ou de ce qui ne se fait pas. La conformité sans pourquoi ni pour quoi. Et dans le même geste, Marie déposant l'enfant dans la mangeoire, le geste de Marie déposant l'enfant dans la mangeoire, nous comprenons que le lieu qui n'était pas un lieu d'humain, qui n'est pas un lieu d'enfant, peut le devenir. Peut-être parce que le Sauveur se tient là. Là où sont celles et ceux qui n'ont pas de place dans les lieux communs. Là où vont celles et ceux qui se tiennent ou sont tenus à l'écart, celles et ceux qui sont exclus des structures communes. Ces lieux à part, à l'écart, au Moyen-Âge, on les a désignés avec le nom de banlieues. Eh bien, ces lieux-là ne sont pas privés du Sauveur et du salut. Et l'enfant de Bethléem nous sauve parce que si des portes se ferment, sont fermées, il reste d'autres lieux qui peuvent devenir habités. Il nous sauve parce que si des usages sont réservés à certains et interdits à d'autres, d'autres usages peuvent être inventés pour accueillir les vivants qui n'avaient pas de place, pour accueillir les humains qui en ont besoin. La bonne nouvelle de Noël, c'est une puissance de renversement, de révolution, de création, et toujours aujourd'hui. L'enfant de Bethléem nous sauve parce que ce qui surgit en lui, c'est cette vie aux éclats, cette vie en plus de ce qui est communément admis, la vie malgré tout ce qui veut la contrôler, la maîtriser ou l'empêcher. Et c'est aussi ce qui arrive aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs la nuit. Ils sont représentatifs de ceux qui sont à l'écart, considérés avec suspicion en raison de leur mode de vie, proche des troupeaux, éloignés des normes sociales et religieuses. Mais c'est à eux que la naissance du Sauveur est annoncée en premier, par un ange et puis par toute l'armée céleste. Et les prophètes d'Israël n'en ont pas tous vu autant. Pour les bergers, la gloire de l'Éternel brille dans la nuit. Alors les voici qui quittent les champs et la veille des troupeaux pour aller voir ce que l'ange leur a annoncé et ensuite en parler, l'annoncer eux-mêmes. Voici que les bergers deviennent des anges. Ils annoncent la bonne nouvelle qu'ils ont vue et entendue. Voici que les bergers deviennent plus que des bergers, tels que les habitants de Bethléem les voyait, les estimait, les jugeait. L'annonce de l'ange les a fait se lever et se mettre en route. Ils sont allés voir parce qu'ils ont été éclairés par une parole, par la gloire de l'Éternel. Ils sont allés voir parce qu'ils peuvent voir, parce qu'ils ont des yeux pour voir et qu'ils ne sont plus ces gens à qui l'on pourrait dire « circulez, il n'y a rien à voir, il y a à voir ». Alors ils vont voir et ils parlent, ils annoncent, ils transmettent la bonne nouvelle qui réjouit. Ils ne sont plus passifs, cantonnés à leur tâche de berger, ils ne sont plus soumis au mépris et à l'écart dans lesquels ils étaient maintenus. Ils ont changé de statut et le monde s'est élargi pour eux. Ils prennent des décisions et ils prennent la parole. Annoncer une naissance, c'est une ouverture. Ce n'est pas une définition de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Annoncer une naissance, c'est un dynamisme, pas une routine, ni une répétition. C'est l'avenir, bien plus que le futur. Annoncer une naissance, c'est annoncer une vie nouvelle avec ses possibilités inconnues et surprenantes. Personne à Bethléem imaginait que les bergers puissent devenir des anges. L'enfant de Noël nous sauve en nous libérant de ce qui nous assigne, de ce qui nous juge, de ce qui nous contraint à certaines places. Il nous sauve des définitions dans lesquelles nous étouffons. Et Jésus le Christ ne donnera pas de définition de qui que ce soit, de quoi que ce soit, ni de lui, ni d'autrui, ni même de Dieu. Mais il mettra en question bien des certitudes, bien des jugements. Et c'est cela qui permettra à tant d'hommes et de femmes d'être redressés. Aujourd'hui, nous nous réjouissons pour cette vie déposée dans une mangeoire, au temps d'un recensement, et dont l'annonce est relayée par d'improbables anges et l'a été jusqu'à nous. Aujourd'hui, c'est Noël. Et nous nous réjouissons pour cette vie pleine de grâce, distribuée largement, et que nous n'avons qu'à recevoir. Et c'est lorsque nous la recevons que c'est véritablement Noël pour nous, pour quiconque la reçoit dans son existence. Amen.